comment on peut jouer avec la fiscalité canadienne pour devenir des gens super éduqués financièrement et comprendre comment investir notre argent. Parce qu'ici, au Québec, on ne dit jamais notre salaire. L'argent, c'est tabou. On lapide les gens qui font faillite. Mais si tu fais de l'argent, t'es un crosseur. Donc, on dirait qu'on est toujours... On a toujours une émotion extrêmement négative face à l'argent. Si t'as pas d'argent, t'es un raté. Mais si t'as beaucoup d'argent, t'es un crosseur. Là, on se dit, mais c'est quoi? Faut qu'on fasse tout 40 000 $ pour être heureux? Donc, c'est vraiment... On a oublié de s'émanciper de « on est né pour un petit pain ».
Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 22. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez super bien. Moi, en tout cas, j'ai une super belle journée. Je suis particulièrement reconnaissante pour plein de choses ces temps-ci, mes clientes, vous autres qui me suivez, qui m'écoutez, dès que vous répondez à un courriel, j'adore en apprendre un petit peu plus sur vous quand que vous recevez mon infolettre, puis vous y répondez, vous communiquez avec moi, puis j'en apprends un petit peu plus à chaque fois à propos de votre histoire, puis moi, ben comme vous le savez, les histoires, c'est ce qui me passionne. Donc aujourd'hui sur le podcast, j'ai une invitée bien spéciale, puis on va parler d'un sujet tout aussi intéressant et j'ai nommé l'argent. Je reçois sur le podcast Geneviève Paré, qui est une stratège financière. C'est aussi une entrepreneuse qui a eu plusieurs boutiques e-commerce. Et là maintenant, elle aide les entrepreneurs à comprendre mieux leurs chiffres, à prendre conscience de leurs dépenses et aussi à générer plus de profits. Parce que c'est vraiment ça pour Geneviève. L'important, c'est que on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenus, mais des profits, vraiment ce qui reste dans nos poches, c'est ça qu'on veut optimiser. Puis c'est ça que souvent, on a de la misère à faire parce que justement, on n'est pas éduqué dans le domaine. Donc, Geneviève, elle a créé l'Académie financière La Maudite Affaire pour tout ce qui est entrepreneuriat web, aspects comptables et fiscaux, légaux et administratifs des entreprises individuelles. Elle a aussi un mastermind de douceur financière pour ceux qui veulent mieux comprendre justement leurs chiffres et faire de la planification. Et finalement, elle est l'animatrice du podcast Douceur financière dont on va parler un petit peu à travers l'épisode. Moi, personnellement, j'ai une relation à l'argent intéressante dans le sens que, ben, vous le savez, je suis une entrepreneuse à temps partiel, donc pour moi, la sécurité financière, ça a été important dès le départ dans ma vie. Tu sais, je suis la fille de quelqu'un qui travaillait, ben, mon père, il travaillait pour le gouvernement, ma mère, elle est restée à la maison toute notre enfance. Dans le fond, elle s'est occupée de nous à la maison sans avoir d'emploi qui ramenait de l'argent à la maison. Ce qui fait que j'ai oscillé autant entre la vision de quelqu'un qui avait assez de moyens pour nous faire vivre. On avait deux condos, on allait en voyage en Floride ou ailleurs dans un pays chaud à chaque année. Et parallèlement, la vision de ma mère qui, elle, se concentrait à sa famille qui était tout le temps là pour nous. Dès qu'on avait besoin d'elle, elle venait nous chercher à l'école ou des choses comme ça. Fait que j'ai quand même une grande liberté de ce côté-là. Et j'ai l'impression que ma relation à l'argent s'est vraiment forgée autour de ces thèmes-là de liberté et de sécurité, de stabilité, qui permettaient justement ces relations proches, ce temps pour les gens qu'on aime. Et aujourd'hui, ben, on dirait que à travers ben, l'entrepreneuriat à temps partiel à travers mon lancement d'entreprise qui s'est fait alors que je naviguais encore à travers une carrière justement très très stable avec un très bon salaire, avec des bonnes conditions, dans le fond tout ce que j'aurais voulu en pensant à mon père. Et là maintenant que j'ai une fille, on dirait que c'est pour aller chercher tout ce que j'ai rêvé d'avoir quand je voyais ma mère étant aussi présente pour nous. Donc l'entrepreneuriat, on dirait que c'est ça que ça me permet, de peut-être être un petit peu plus présente. Et si je pouvais justement arrimer les deux, donc une entreprise qui me permet la liberté d'être avec les miens, tout en ayant une stabilité financière, soit des revenus qui rentrent de façon récurrente, avec un assez bon salaire pour me sentir vraiment à l'aise, mais ça, personnellement, c'est ce que je considère être mon propre degré d'abondance, mon propre degré de douceur financière. Je vous laisse écouter l'entrevue. J'aimerais ça que pendant l'entrevue, vous réfléchissiez à c'est quoi votre relation à l'argent, comment elle s'est construite, c'est quoi les thèmes qui entourent cette relation-là et qu'est-ce que vous voulez que l'argent fasse pour vous. Et il y a une chose que je trouve vraiment intéressante que Geneviève a dit et que j'écoutais aussi récemment dans un podcast, c'est que souvent, on est capable de générer de l'argent, mais on n'est pas capable de la garder. Puis ça, c'est quelque chose que je veux que vous gardiez en tête aussi pendant que vous écoutez l'entrevue, mais aussi par rapport à votre propre finance, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça. Bref, j'en dis pas plus, j'ai fait une relativement longue introduction pour l'épisode d'aujourd'hui, mais j'ai très hâte d'avoir votre feedback si jamais vous en avez. Vous savez où me trouver sur Instagram, tatiana.saintlouis, LinkedIn, Facebook, ou directement sur l'infolettre ou dans les notes.
Salut Geneviève, bienvenue sur l'ambition au féminin. Je suis tellement, tellement contente de t'avoir sur le podcast.
Salut, merci pour l'invitation. Je suis vraiment heureuse moi aussi d'être là aujourd'hui.
Ouais, j'ai l'impression. En tout cas, je trouve que le podcast pour moi, c'est vraiment une façon de parler à des gens que je suis depuis super longtemps, mais que dans le fond, tu sais, ça me donne une espèce d'excuse d'aller leur dire « Hey, ayons une conversation sur quelque chose qui nous intéresse tous les deux. »
Oui, c'est un peu drôle hein, avec les réseaux sociaux, parce qu'on a l'impression de connaître les gens, mais on ne s'est jamais parlé.
Exact.
Puis là, on se voit en podcast, parce que moi aussi j'ai un podcast, puis tu dis « Ah, c'est donc bien hot, on a une vraie discussion! »
Exact. Puis tout le monde l'entend en plus, oui. Ce qui est comme vraiment nice.
C'est parfait.
Donc aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de ton expertise qui est autour des finances, puis du mindset autour de l'argent, parce que je pense que c'est un sujet super important quand on parle d'ambition au féminin, quand on parle de développement de soi, puis aussi de développement professionnel. Mais avant qu'on commence, je voulais que tu nous parles un petit peu de ton background, parce que, tu sais, tes stratèges financières, un terme qu'on n'entend pas souvent, puis là, j'aimerais genre que tu me parles peut-être de comment tu t'es approprié ce terme-là. Tu es aussi bachelière en sciences comptables, puis je voulais peut-être savoir comment et quand t'as décidé que tu voulais que l'argent, ce soit ça, dans le fond, ta profession ou ta voie professionnelle.
Oh wow! Ah oh, ça, c'est tellement passionnant parce que à la base, j'ai un baccalauréat en sciences comptables, mm-hmm. mais j'avais aucune éducation financière. Je m'explique. Au baccalauréat, au niveau du cursus académique, c'est vraiment axé sur la comptabilité des corporations. On n'apprend jamais la finance, l'investissement, la saine gestion de nos dépenses, l'éducation financière des humains, c'est mm-hmm. de l'humain derrière l'employé ou l'humain derrière l'entrepreneur. On n'apprend jamais ça sur les bancs d'école. J'ai quand même fait un DES aussi, donc j'ai mon baccalauréat, mm-hmm. j'ai mon DES, et jamais on a eu de cours sur les finances personnelles. Donc, ouais, et j'étais une jeune femme qui avait beaucoup de limitations et de croyances erronées face à l'argent. Je viens d'un milieu extrêmement bourgeois, j'ai une salle Lambert, puis moi, dans ma tête, on était pauvres. Parce que ma perception, c'était qu'on n'était pas ceux qui avaient la Mercedes. Puis mon père disait toujours qu'on était les plus pauvres du quartier, mais on restait dans le plus gros quartier de Saint-Lambert, tu sais, Prévalembas, si jamais vous connaissez. Puis on était les plus pauvres du quartier. Et moi, dans ma tête, ça a vraiment fait une perception hyper erronée, plein de croyances limitantes face à l'argent. Et j'ai toujours cru que j'étais pauvre. Et pour moi, faire en bas de 200 000 par année, c'est être pauvre.
Uh-huh.
Ça, c'était l'ancienne Jen.
Okay.
Donc, j'ai toujours travaillé. J'ai pas fait un baccalauréat en sciences comptables parce que c'était une passion, là.
Mm-hmm.
C'était pour avoir un gros salaire, là, je me le cache pas, c'était vraiment ça. Ensuite, ma carrière, je l'ai bâtie en fonction d'avoir un gros salaire pour pouvoir payer mes factures.
Mm-hmm.
Pas pour pouvoir investir. C'était pour me payer un lifestyle de riche.
Intéressant.
Donc, ouais, donc j'ai dilapidé, je te dirais, tellement d'argent, ça n'a aucun sens pour un lifestyle et pour payer des factures. Et j'ai eu de l'anxiété financière tellement intense dans ma vie et j'ai fait un burn-out à 28 ans.
Okay.
Et je te dirais que c'est là que le déclic est arrivé dans ma vie. Je me suis dit, j'haïs ma job.
T'étais comptable à ce moment-là?
Oui, j'étais okay. vraiment dans une grosse corpo. Je faisais plus de 120 000 par année. Des fois, avec les bonus, j'atteignais le 150 000. Mm-hmm. Je travaillais du 100 heures semaine.
Wow.
J'étais une des plus grandes project managers à être en bas de 30 ans dans un monde de baby boomer masculin. J'étais vraiment au niveau de overachiever, là. C'était incroyable, ma carrière, mais j'étais tellement malheureuse et j'avais tellement d'anxiété financière et je survivais de paye en paye. Et quand j'ai fait mon burn-out, je me suis dit, mais ça se peut pas. Quelle vie de chenoute, tu sais, à juste payer des factures tout le temps. Mais j'étais encore dans mes peurs et un très mauvais mindset financier. J'ai commencé à m'éduquer. J'ai lu des livres, genre Les secrets de l'esprit millionnaire, Rich Dad, Poor Dad. J'ai lu aussi You're a Badass at Making Money. Mm-hmm. J'ai commencé à m'éduquer tranquillement, mais avec des livres très américains. Puis on s'entend, c'est la fiscalité américaine. Et là, je me suis dit, ah, ça n'a pas de bon sens qu'au Canada, on n'ait aucun livre de ce genre avec la fiscalité canadienne.
Mm-hmm.
C'est quoi nos portes de sortie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut jouer? Parce que moi, j'aime jouer. Comment on peut jouer avec la fiscalité canadienne pour devenir des gens super éduqués financièrement et comprendre comment investir notre argent? Parce qu'ici, au Québec, on dit jamais notre salaire.
Mm-hmm.
L'argent, c'est tabou. On lapide les gens qui font faillite. Mais si tu fais de l'argent, t'es un crosseur. Donc, on dirait qu'on est toujours, on a toujours une émotion extrêmement négative face à l'argent. Si t'as pas d'argent, t'es un raté. Mais si t'as beaucoup d'argent, t'es un crosseur. Mm-hmm. Là, on se dit, mais c'est quoi? Faut qu'on fasse tout 40 000 $ pour être heureux. Donc, c'est vraiment, on a oublié de s'émanciper de on est né pour un petit pain.
Intéressant.
Je pense que c'est vraiment ça que j'ai voulu amener. Puis c'est aussi parce que je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens qu'une fille en finance, en ayant dans les plus gros postes de gestion, je gérais des budgets là à un, mais je n'étais même pas capable de faire mon compte de dépenses personnelles. Je savais même pas où allait mon argent, tu sais? Ouais. Et je faisais juste tout payer avec mes cartes de crédit. J'étais un puits sans fond, là, tu sais? Un panier percé. Et c'est vraiment ça. Puis où j'ai eu vraiment un gros déclic, c'est quand j'ai accouché.
OK.
Quand j'ai accouché...
Quand ça, en quelle année à peu près?
Que je il y a me... deux ans. Mon okay. fils a deux ans et demi. Ben oui. Il y a deux ans et demi. Quand j'ai accouché, je me suis dit, sérieux, si t'as réussi à accoucher sans péridurale avec l'ocytocine, là, parce que moi, j'ai eu du pitocin, pas de péridurale, ce fut l'expérience la plus difficile de ma vie en termes de sortie de zone de confort mm-hmm. et de douleur.
Mm-hmm.
Et je me suis dit, si je suis capable de faire ça, je suis capable de tout faire. Et on dirait que toutes les peurs, tout l'ancien paradigme, tu sais, toutes les croyances sont tombées. Puis je me suis dit, moi, je change de vie, je veux pas que mon enfant soit comme moi.
Mm-hmm.
Comment je peux faire? Et c'est là que c'est venu vraiment tout changer. Et j'ai passé d'un lifestyle à 8-9 000 $ par mois de dépenses. Maintenant, c'est pas plus que 3 500. On a une maison, on a une auto, puis on a deux enfants à la garderie. Fait que je te dirais que nous, on a considérablement réduit nos finances et on a amené de la douceur financière dans notre vie. C'est-à-dire, on a enlevé tout ce qui était anxiogène financier.
Mm-hmm.
Oui, exactement. Fait que voilà!
Wow! Super intéressant comme parcours. Surtout, j'ai l'impression, puis tu me diras si oui ou non, mais t'as pas vraiment un entourage entrepreneurial. Ça a été toi qui t'es vraiment lancé là-dedans par rapport à ta propre expérience, t'as créé quelque chose à un peu qui a comme traduit cette histoire que t'as vécue.
Oui, puis ça a été extrêmement difficile. Là, moi, mon père, il me rencontrait à chaque semaine pour me convaincre de retourner dans une job de salarié. Wow. Et au début, là, à chaque fois qu'il me rencontrait, je braillais pendant comme 4 jours, tu sais, en plus avec les hormones, là. Ouais. Tu sais, tes hormones, ça prend du temps avant qu'elles se réalignent après une grossesse.
Ben oui.
Puis, je pleurais tellement. Puis, à un moment donné, j'ai su que j'étais 100% alignée avec mon choix. Quand il me parlait, j'avais une ouverture, je comprenais ses peurs, je voyais sa perception, puis je me disais, ben c'est parfait, tu sais, c'est ta perception, c'est tes peurs, mais moi, je m'émancipe.
Super.
Je suis plus la petite fille à papa. Puis là, c'est drôle de dire ça d'une fille de 31 ans, mais tu sais, moi, j'ai jamais été rebelle. J'ai toujours suivi mon chemin qui était...
Mm-hmm.
J'ai jamais voulu sortir du moule, j'étais très... C'est ça, je me posais pas de questions. J'étais allée, qu'est-ce qu'on m'a dit, je l'ai fait. Tu sais, c'est ouais. Comme ça, tu sais. Moi, c'était, il faut que tu ailles à l'université, fais un baccalauréat. Parfait, je vais choisir un baccalauréat. Tu sais, j'ai de la facilité en maths, puis ça rapporte beaucoup d'argent. Parfait, baccalauréat en sciences comptables. Tu sais, fait que c'est vraiment, je me suis jamais posé de questions. Mm-hmm. Je pense que quand t'es workaholic, tu sais, je travaillais 100 heures semaine,
ouais.
Je suis tombée en congé de maternité.
Ouf!
Et là... J'ai commencé à penser et faire de l'introspection.
Ouais.
Et là là! Et j'ai eu des déclics, là. Ça a été impressionnant, puis j'ai vraiment été obligée de faire beaucoup d'introspection, de me poser des questions sur ce que je voulais. C'était quoi vraiment ma vie? Parce que moi, quand je suis partie en congé de maternité, je pensais revenir travailler au bout de 6 mois, puis que mon enfant allait aller 60 heures semaine en garderie. Mais je me suis attachée à cette petite bête-là, puis je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais. Je voulais être présente pour mes enfants, puis je voulais avoir le luxe de pouvoir aller les chercher, les porter à la garderie à 8 heures, mais d'aller les chercher à 3h30, 4 heures. Et en milieu corporatif, c'est pas quelque chose qui était possible, surtout que moi et mon chum, les deux, on avait des grosses jobs au corporatif. Lui, il l'a encore. Fait que ça a été vraiment beaucoup de questionnements sur c'est quoi mon lifestyle, puis qu'est-ce que je veux faire. Puis je me suis dit, et nécessairement, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait vraiment un trou dans le marché québécois. Puis, au début, ça fait peur. Parce que là, je me suis dit, ouch, être un précurseur. Tu sais, moi, je suis en comptabilité, hein. Le risque, là, tu sais, tu calcules ça, les ratios. Là, je me suis dit, ouh, OK. Donc, il faut que j'aie des objectifs réalistes. Ce qui veut dire que quand on est précurseur, il faut beaucoup éduquer au début et pas s'attendre à avoir beaucoup de revenus. Parce que, on est dans l'éducation, beaucoup de dons. Et je me suis comme fait un plan quinquennal qui me permettait...
À chaque fois que je parle de ça à mon mari, il me parle de Staline. Excuse-moi, je voulais que je le nomme.
C'est trop drôle.
Bref, je comprends que tu utilises le terme
aussi. Moi, j'ai vraiment des plans quinquennal, OK? Puis je savais vraiment que mon objectif était là et que ça allait être plus ardu. Parce que je me lançais pas comme coach, je sais pas moi, de vie, coach marketing, coach en vente, coach d'affaires. Non, je devenais une stratège financière. Puis à quoi ça sert un stratège financier? Bien, c'est à faire ta structure financière puis t'assurer de générer du profit.
Oui, puis sachant que justement au Québec, les gens sont pas habitués à se pencher là-dessus ni à l'école ni à la maison. Comme tu dis, il y avait toute cette éducation, puis même juste déterminer le terme puis l'offre que tu devais faire, ça devait quand même... ça a dû évoluer quand même beaucoup du début jusqu'à où est-ce que t'es maintenant.
Ah oui, je sais ça n'a aucun sens. Et c'est... Pour de vrai, je me suis lancée en affaires en vrai, là, depuis à peu près 1 an, et ça a complètement changé. Ça l'a radicalement changé. Et au début, je voulais aider vraiment les bébés preneurs, et je me suis rendue compte, non, c'est pas là ma zone de génie. Moi, c'est ceux qui ont déjà du revenu, puis là, on va aller s'amuser. J'ai besoin de viande. J'ai besoin de revenus, mais de la non-gestion de dépenses. Et là, après ça, c'est faire de la gestion de croissance, tu sais. Puis c'est vraiment ça que je fais en ce moment. C'est la plus grande difficulté des solopreneurs, c'est quand ils viennent des PME. C'est cette première croissance-là, parce qu'après ça, tu as plusieurs phases là, dans une entreprise. Mais moi, j'aide vraiment la phase de solopreneur à PME et ensuite la PME qui vient l'incorporation. T'sais, je le vois vraiment comme plusieurs phases.
Ouais, puis même en termes de communication puis marketing, c'est la même chose. Hein, cette transition-là, à un moment donné, quand tu dois instaurer des processus puis des métriques de succès puis des investissements, justement, c'est là que tu vois vraiment la difficulté.
Ouais. Fait que j'ai vraiment réajusté de un ma niche et beaucoup, beaucoup. Puis aussi mon discours et je me suis rendu compte où j'étais bonne et où j'étais mauvaise. Et à la place de mettre beaucoup d'efforts où j'étais mauvaise, j'ai décidé de vraiment focusser sur mes forces parce que moi, créer du contenu, c'est très difficile pour moi. Ça me prend beaucoup d'énergie quand c'est écrit. Par contre, j'adore parler, j'adore les vidéos. Donc, je suis allée plus en live, en story, en podcast. Je pense que c'est ça, c'est de se connaître. Puis, ce qui est bien de ne pas pouvoir se comparer, parce que c'est ça, j'étais la première, c'est que ben tu peux pas te comparer. Fait que tu fais ton possible, puis tu te dis, ben je vais voir si ça fonctionne, je teste.
C'est la meilleure anyway.
Ouais. Donc, je suis la seule. Tu sais, j'ai pas encore de compétition. Fait que c'est vraiment ça. Ça a été extrêmement dur parce que tu remets toujours, t'es toujours en doute. Parce mm-hmm. qu'au début, ben t'es en éducation, tu sais, comme je te disais. Fait que c'est très, très difficile parce que t'as aucun revenu. Quand t'es habitué ouais. de faire dans les 100 000, 150 000 de revenus, puis tu te retrouves, moi, l'année passée, j'ai fait 12 000 de revenus, là. Mm-hmm. Et c'est aïe aïe là, t'es là, ouh, ok! Et là, ok, qu'est-ce qu'on peut faire, what's next? T'sais, mais je le savais, tu sais, quand on parle de plan quinquennal, mais je le savais que la deuxième année, ça allait être différent. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des projections.
T'sais? Fallait que tu passes par
oui.
là. Fait qu'en gros, tu sais, comment je comprends vraiment tout ce que tu apportes aussi, c'est que tu aides vraiment les entrepreneurs, solopreneurs à soigner leur relation à l'argent via des formations, de l'accompagnement et ton podcast, qui est quand même, tu sais, je veux dire, c'est une mine d'or d'informations aussi. Hein. Puis le terme qui revient, qui est vraiment ton terme signature, c'est douceur financière. Puis je voulais que tu expliques peut-être aux gens comment tu le définis.
Oh, oui.
Autant pour toi que pour tout le monde.
En fait, la douceur financière, c'est de, un, prendre conscience de ses chiffres, de trouver tous les éléments anxiogènes face à l'argent. On a un petit shortcut marketing parfois qui me fait grincher les oreilles de plusieurs coachs qui disent comme « Ah, si tu veux pas investir dans mon programme, c'est parce que t'as peur du manque, t'as un blocage face à l'argent. Mm-hmm. » Et moi, il y a mm-hmm. rien qui me fait plus capoter que ça. Parce que c'est important d'avoir une saine gestion de ses dépenses et se demander « Est-ce que j'en ai vraiment besoin? » Et « Est-ce que ça répond à mes besoins et mes objectifs et ma vision long terme? » Donc, mm-hmm. de ne pas non plus se mettre une anxiété financière et de se mettre trop de dépenses au début. On essaie tellement d'aller vite, d'être parfait au début, que parfois, on va prendre des raccourcis qui vont nous coûter plus cher et qui vont nous faire perdre notre temps. Et ce que je dis à tous mes entrepreneurs, mes clients, c'est ta ressource la plus essentielle, c'est ton temps. Mm-hmm. L'argent, tu peux faire faillite demain matin, tu peux devenir milliardaire 4 jours après. C'est une ressource qui est imprévisible, l'argent. Ça peut être ton succès, tu peux tomber dans un momentum puis faire soudainement beaucoup d'argent. Par contre, tu auras toujours 24 heures dans ta journée. Et la douceur financière, c'est ça. C'est d'avoir des attentes réalistes face à l'argent, de se respecter, de prioriser, d'aimer ses chiffres, et surtout d'avoir des dates. Moi, j'appelle ça des petites dates le vendredi soir avec ta comptabilité. Mais c'est vraiment de prendre ce temps-là pour regarder tes chiffres, analyser, puis de t'assurer que ta compagnie, elle va bien. Parce que c'est ça la douceur financière, c'est de pouvoir se réajuster le plus vite possible. Une entreprise, c'est un constant réajustement. Il n'y a rien d'égal. T'es tout le temps en train de valser. OK, tel projet, ça va bien. Ah, oh, celui-là, c'est vraiment un gouffre argent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se réajuste? Et d'être conscient de ces chiffres à chaque semaine, d'aller regarder ses comptes de banque aussi, d'aller... Ça amène après ça une espèce de douceur et une paix d'esprit parce que tu es conscient. Et c'est ça, la douceur financière. C'est d'être conscient, tu arrêtes d'être obsédé. Puis il y a deux types d'obsédés. Session au niveau de l'argent, tu as ceux qui font complètement de l'évitement, là. Tu sais, qui sont la tête dans le sable, ils regardent jamais leur compte, même leur compte d'entreprise, ils savent aucunement leurs chiffres. Puis tu as ceux qui sont complètement dans la peur. Ils regardent 75 fois par jour leurs chiffres et ça devient comme une espèce d'anxiété à tous les jours de savoir si tu crées du revenu et tout ça. Et ça fait que ton cerveau n'est pas utilisé à son plein potentiel, n'est pas optimisé à ce qu'il a besoin de faire, c'est-à-dire créer et te permettre de générer du revenu en ayant des clients, pas en étant stressé mm-hmm. financièrement.
En prospectant, oui, en créant des relations dans
exactement.
Le fond. Donc, versus rester en dedans de toi-même à regarder ton ordinateur puis te demander où est-ce que l'argent
s'en va. C'est incroyable comment, juste en ayant une structure financière qui fait du sens, en cachant son argent, entre guillemets, tu sais, moi, je fonctionne avec des pourcentages, on va vraiment faire une structure financière pour les entrepreneurs. Puis souvent, j'ai des clientes qui me disent « mais j'ai jamais eu autant d'argent dans mes comptes de banque ». J'ai dit « oui, mais c'est parce qu'on fait la saine gestion de tes dépenses ». Puis moi, je dis toujours « je m'en fous de ton revenu, je veux savoir c'est quoi ton profit ». Parce que ta gestion des dépenses, là, tu sais, j'ai des clients, des fois, là, ils font plus de 250 000 par année, puis ils font un profit, là, net, là, de genre 9 000 $. Là, tu te dis, ton salaire annuel, là, c'est 9 000 $, mais t'as fait 250 000 $ de vente. Il y a un problème. Fait que c'est ça aussi, c'est ça, c'est de la douceur, c'est d'aller regarder, OK, comment on peut optimiser cette structure-là? C'est parce que ça, tout s'optimise, ouais.
Super cool. Puis, tantôt, tu as parlé de toute cette idée du manque, de l'idée qu'on se sent dans le manque, puis tout ça. Puis, je trouve qu'effectivement, c'est très à la mode en ce moment dans le discours de parler abondance versus manque. Mais est-ce qu'il y a d'autres blocages ou difficultés, inconscientes ou non, que tu vois vraiment chez tes clients quand il est le temps de justement instaurer une nouvelle structure ou de changer les façons dont les choses sont faites? Par rapport à leurs finances?
Oui, c'est l'incapacité de recevoir. Et je m'explique. Les gens pensent qu'ils sont capables de recevoir l'abondance financière. Mais moi, je crois qu'un très petit pourcentage de gens est capable de recevoir parce que la majorité des gens vont recevoir et vont dilapider leur argent à la seconde près. Et ça, c'est pas ta capacité de recevoir. C'est que t'es tellement pas capable d'avoir autant d'argent dans ton compte de banque, t'es obligé de le dépenser tout de suite. Et c'est prouvé, j'ai vu une étude, moi ça m'a fait capoter, 95% des gens qui gagnent à la loterie vont se retrouver dans une situation financière pire dans la prochaine année qu'avant d'avoir gagné la loterie parce qu'ils sont dans l'incapacité de recevoir. On parle d'abondance, mais on oublie que gérer beaucoup d'argent, c'est très difficile. Ça demande un contrôle incroyable. Ça demande une capacité d'analyse et souvent, ça va stresser encore plus les gens d'avoir beaucoup d'argent. Et c'est ça, il faut arrêter de faire des shortcuts, moi j'appelle ça, financiers, en disant « l'abondance va arriver ». Ben peut-être pas si tu gères pas tes dépenses. Je dis juste ça comme ça. Il y a quand même une saine gestion puis vraiment une prise de conscience. Je parle beaucoup d'introspection financière puis c'est ça. C'est dire « c'est quoi mes patterns ?» Parce que la plupart des entrepreneurs, notre problème, c'est qu'on est extrêmement cyclique. On a un moment où on n'a vraiment pas d'argent. Puis là, à un moment donné, on fait un lancement, admettons, ou peu importe, et là, on a une grosse rentrée d'argent et on devient complètement euphorique, on se crée des besoins. Là, on se dit « Hey, je grandis, je vais déléguer! » OK? Mais avec aucun plan, aucune structure, et ça fait que quelques mois après, tu te retrouves dans une situation pire et dans une situation d'anxiété financière et de manque. Et ça, c'est vraiment, c'est la capacité de recevoir. Puis, tu sais, c'est un livre, ça s'appelle « Big Leap », là, « Le grand saut ». La limite supérieure, c'est incroyable. On la vit tous comme entrepreneurs. Puis quand on fait les parallèles financiers, tu te dis « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens! » Mais c'est vraiment ça. C'est comment on est capable de recevoir.
Ouais. Super intéressant. Puis tous les livres que tu mentionnes, je vais les mettre naturellement dans les notes de l'épisode. Puis ça m'intéresse parce que je réfléchis beaucoup aussi à ce seuil qu'on se permet aussi de charger, hein? Parce que c'est très abstrait aussi pour beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est quoi la différence entre leur valeur, leur tarif, puis tout ça. Et aussi le lien que ça a avec la confiance que tu as en toi-même, soit quand tu te lances ou quand tu proposes un service. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles aussi? Parce que j'ai l'impression que quand on parle d'introspection financière, il y a beaucoup aussi d'introspection de toi-même, puis justement, quand tu parles de plafond, je me dis, est-ce que je serais prête à faire un tel montant, est-ce que je le vaux?
T'sais? Oui.
Est-ce que je le vaux?
C'est tellement important parce qu'on a une très mauvaise confiance financière. On va beaucoup se réduire. Moi, je parle beaucoup d'heures facturables versus heures travaillées. On oublie beaucoup que au niveau de notre semaine comme entrepreneur, on ne facture pas 40 heures semaine malgré le fait qu'on en travaille 40. On va peut-être en facturer 20. Fait que ce que je fais avec mes clients, c'est totalement l'inverse. On va regarder c'est quoi ton lifestyle personnel. T'as besoin de combien d'argent pour bien vivre? Et on va aller mettre ça sur 20 heures, c'est quoi ton salaire horaire que tu as besoin minimalement. Et là, souvent, les gens font un jump. Parce que d'habitude, c'est à peu près du 200 $ de l'heure qu'ils ont besoin. Parce que on n'oublie pas, on est au Québec, on paye des impôts. Oui, et puis moi, je mets toujours la stratégie fiscale avec mes clients. Là, on a vraiment une stratégie fiscale. Tu as de l'impôt, tu as le RRQ, tu as tellement de charges que les gens oublient dans leur taux horaire, et aussi, tu n'as aucun avantage social. Il faut que tu mettes de l'argent pour ta retraite, tu n'as pas d'assurance, et il y a plein d'autres charges. Et finalement, le client, en faisant cette espèce de marche arrière, se rend compte qu'il faut qu'il charge très cher. Ensuite, là, on va avec les blocages, les limitations. Là, je dis, OK, optimalement, il faut que tu charges ça. Toi, combien tu te sens à l'aise? Et là, tu vas rire, mais c'est le plan quinquennal encore. Et là, c'est vraiment comme, admettons, mon client, son maximum dans sa tête, c'est 75 $ de l'heure, puis il faut qu'on se rende à 250. Puis là, je dis, parfait. Moi, mon but, c'est d'aller ancrer, moi, j'appelle ça dans ton subconscient, mais ton petit cerveau reptilien, que tu es capable, que tu vaux ça. Donc là, tu penses que tu vaux 75 $? Je dis, parfait. Tes trois premiers clients, tu sais, on se fait vraiment un plan. Tes trois premiers clients, tu les charges 75 $ de l'heure. Augmente ta confiance, ensuite 100. Ensuite, 125. Puis là, je dis, à la fin 2020, c'est 250 $ de l'heure. Et tout le monde réussit. Il faut simplement que tu ancres dans ta tête, dans ton subconscient, que c'est correct, ça fonctionne. Parce que si tu essaies jour 1 de charger 250 $ de l'heure, tu vas avoir aucune vente parce que tu vas tellement avoir un gros sentiment d'imposteur que tu vas te saboter, tu ne seras jamais capable de te vendre.
Puis tu vas aller chercher les clients aussi qui sont pas prêts à payer ça, j'ai l'impression. Tu sais, je pense que, en tout cas, puis moi qui viens du monde du marketing, tu sais, c'est drôle parce que c'est tout le temps réajuster aussi ta clientèle par rapport à ton message, mais aussi la valeur que tu veux communiquer. Là. Fait que ça, c'est super intéressant comme technique. Je pense que c'est quelque chose à essayer, là, tout le monde, là, si vous êtes pas à l'aise avec les prix que vous chargez. Là.
Oui, puis arrêtez de regarder la compétition. Moi, chargez votre juste prix, puis après ça, calculez votre coût de revient. J'ai des clients, tu sais, ils regardaient juste la compétition pour mettre leur coût, puis après ça, je regardais, j'étais comme, mais tu fais 0 $. On calcule combien de dépenses tu as par heure travaillée. J'étais là, mais c'est ça. C'est vraiment des exercices de base. Tu sais, le coût de revient, c'est vraiment de regarder combien te coûte ce service-là ou ce produit ou ce service-là à produire versus combien tu le vends. Combien d'impôts tu payes? Combien de charges administratives? Et là, des fois, tu te dis, mais ça n'a aucun bon sens parce que c'est aucunement rentable. Tu penses que c'est ça la douceur financière? C'est d'enlever tous les projets. C'est de l'épure. On est pur. Hein? Moi, quand je rentre dans une entreprise, j'épure. Et c'est vraiment d'aller voir, OK, mais tu sais, qu'est-ce qui est rentable pour moi? Qu'est-ce qui est mes projets de cœur versus mes projets alimentaires? Puis comment je peux aller tout mettre ça ensemble pour m'assurer de générer du profit. Parce qu'on s'entend, on est entrepreneur pour faire de l'argent, là. T'es pas entrepreneur pour faire faillite, là.
Non.
Okay. C'est ça.
Ou pour rusher à tous les jeudis parce que t'arrives pas à payer ton loyer.
Oui, exactement. Chose. Fait que c'est vraiment ça. Et de parler de plus en plus d'argent. T'sais, soyez à l'aise avec vos chiffres.
Ce qui me mène justement à ma dernière question pour aujourd'hui, qui était des petits trucs pour penser à l'argent de façon positive, un peu plus positive, ou tu sais, au moins en avoir moins peur. T'sais, as-tu des petits exercices que tu pourrais nous donner là, pour qu'on réfléchisse à
tout
ça?
Oui. Le premier exercice, c'est vos finances personnelles. Va voir ton dernier relevé de carte de crédit et utilise 3 couleurs, rouge, vert et jaune. Vert, c'est toutes les dépenses que tu es 100% à l'aise. Jaune, c'est les dépenses que tu dis, tu sais, Puis rouge, c'est toutes les dépenses qui te rendent un peu coupable. Et là, ton but, c'est qu'il n'y ait plus jamais de rouge dans ton relevé de carte de crédit. Ensuite, c'est vraiment de s'asseoir avec son conjoint et de parler de votre vision financière sans émotion et sans ego. Ça, ça prend du temps, du courage et plusieurs discussions houleuses avant que vous soyez capable de discuter sans ego et sans émotion d'argent. On s'entend, l'argent, c'est sûrement... je crois que c'est vraiment le truc qui fait divorcer tous les couples. Donc, de vraiment s'asseoir, de regarder d'un le partage des dépenses. Est-ce que c'est équitable? On n'a jamais le même salaire entre notre conjoint. Est-ce que les dépenses sont partagées équitablement? Est-ce que comment on veut gérer les dépenses en couple? Est-ce qu'on a des projets financiers ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça, c'est vraiment un exercice à faire. C'est très difficile au début. Au début, ça donne beaucoup d'anxiété. À un moment donné, ça devient agréable, je vous le promets. Puis ensuite, c'est vraiment d'aller voir ses comptes de banque une fois par jour et sortir ses rapports financiers d'entreprise, donc vente versus dépenses, à chaque semaine, si vous êtes capable. Au début, vous pouvez le faire mensuellement. Mais essayez de le faire à chaque semaine pour avoir une idée de la santé financière de votre entreprise à chaque semaine. Et ça va vous permettre vraiment de vous réajuster tout le temps. Puis trouvez-vous des petits ratios qui sont le fun, tu sais, que vous pouvez calculer. Vous n'avez pas besoin de ratios très difficiles ou peu importe. Là, ça peut juste être comme, c'est quoi la différence entre mes ventes puis mes dépenses, là? Tu sais, ça peut être des trucs très, très simples. Là. Surtout si vous êtes solopreneur, c'est vraiment d'aller voir, OK, et comprendre les cycles. Tout est cyclique et d'observer, de faire de l'introspection, te permet de voir, OK, tu sais, mon entreprise est cyclique, mais elle ne croît pas vraiment. Est-ce que moi, la croissance, c'est quelque chose qui est important pour moi ou en ce moment, je suis vraiment bien? Parce que c'est pas vrai que tout le monde a besoin de croissance. Et que c'est pas non plus de prendre les rêves des autres et se les imposer à nous-mêmes. Au niveau financier, souvent, c'est ça. C'est vraiment de voir, OK, mais tu sais, moi, peut-être je suis 100% bien dans mon entreprise, je vis bien, je réussis à mettre un petit peu d'argent de côté. Mon bonheur est à 100%, mais tu n'as pas besoin d'être en croissance financière non plus, tu sais. Peut-être que tu vas être un archi-nul gestionnaire puis tu vas haïr ta business quand tu vas devenir gestionnaire parce que tu as eu de la croissance. Tu sais, peut-être que tu aimes mieux être, je sais pas moi, consultant, coach, puis tu vas être ça toute ta vie, puis c'est parfait, tu sais.
Super. Ah, super, super intéressant, super utile. J'adore. Et t'as-tu comme des outils que les gens peuvent commencer à utiliser pour mieux s'éduquer? Là, t'as nommé quelques livres, mais peut-être comme un top 2 ou 3 de tes favoris où on peut commencer si on veut...
Le premier livre...
Si on peut commencer à s'éduquer.
Ouais, le premier livre que j'ai lu, c'est « Rich Dad, Poor Dad » par Rich, par Pauvre. Mmh. Sincèrement, si t'as jamais lu de livre là, de finances, tu risques de pleurer pendant plusieurs semaines. Parce que moi, je me disais, oh my God, j'ai acheté une maison. Quelle erreur! J'ai vraiment pleuré beaucoup. Mais ça m'a fait prendre des décisions très éclairées par la suite. Par contre, il faut faire attention parce que tous ces livres-là, c'est des livres qui sont basés sur la fiscalité américaine. J'essaie tranquillement de bâtir avec mes amis fiscalistes et CPA, on essaie de bâtir des outils qui sont avec la fiscalité canadienne. Puis je te dirais qu'on en parle beaucoup dans le podcast. Fait que j'invite les gens vraiment, j'ai plein de capsules théoriques plus sur la comptabilité. Fait que c'est vraiment d'aller voir sur le podcast. Je pense que c'est une des seules ressources au Canada, en francophonie.
Super. Ben. On va y aller.
Puis sinon, quel autre... c'est pas mal ça. C'est vraiment des livres. C'est lire, s'éduquer, écouter des podcasts. Les podcasts américains sur la finance sont incroyables. Et regardez sur quoi vous voulez investir. Tu sais, si c'est en immobilier, allez écouter des podcasts en immobilier. Si c'est en bourse, allez regarder c'est quoi le Forex, qu'est-ce qui se passe avec la bourse. Fait que c'est vraiment ça. C'est d'aller, à la place de scroller Instagram ou Facebook, ben peut-être de se mettre un petit podcast dans les oreilles puis de s'éduquer doucement.
Ben oui, de s'éduquer doucement puis de justement avoir moins peur d'aller regarder ses chiffres puis d'essayer de les manipuler un petit peu à notre sauce aussi.
Oui.
Cool. Ben, où est-ce qu'on te trouve, Geneviève? Donne-nous tous tes liens là, pour qu'on aille en apprendre un peu plus.
Je suis principalement sur Instagram. En fait, c'est ma plateforme préférée. Donc, c'est jen.paré. Puis sinon, j'ai mon podcast « Douceur financière » où j'ai 3 épisodes par semaine quand même. Et
wow! Ouais. Quand même, t'es productive!
Mais c'est ma plateforme! C'est vraiment ma plateforme. J'ai délaissé Facebook, donc je suis vraiment Instagram et podcast, là. Puis sinon, j'ai mon site web www.genevieveparis.com.
Si jamais les gens veulent travailler avec toi, tu fonctionnes par cohorte ou on peut juste te contacter puis voir si on peut avoir un accompagnement avec toi? Comment tu fonctionnes de ce côté-là?
J'ai deux types. J'ai les cohortes qui sont plus abordables et incroyablement transformatrices parce que tu es en gang. Puis on s'entend, c'est comme des masterminds parce qu'on a des appels de groupe. Donc, c'est vraiment incroyable et transformateur. Et ça, c'est le bootcamp de planif stratégique, en fait. Puis, j'ai aussi un accompagnement one-on-one où on va aller vraiment... C'est extrêmement personnalisé. Oui, c'est plus cher, mais je crois sincèrement que ça transforme la vie des entrepreneurs. J'ai tellement des belles transformations puissantes. Et c'est toujours dur parce que de dépenser de l'argent pour prendre, genre, ses finances...
Pour prendre l'argent.
Là, c'est comme un peu contre-intuitif parce que les gens me disent « Oui, mais je fais pas plus de ventes, je fais pas rien. » Mais je dis « Oui, oui, mais tu vas faire plus de profit. » Et je m'appelle le département de finances. Tu sais, souvent, on va aller comme entrepreneur, chercher un département de marketing, avec des consultants en marketing. Ouais. On va aller chercher des consultants en publicité, en design, peu importe. Mais on oublie le département de finances et comptabilité, qui est très important. Puis c'est aussi avec mes clients, on fait vraiment des stratégies fiscales. Et ça, c'est quelque chose qu'on parle pas assez. C'est quand le plus important d'aller s'incorporer, surtout quand on est maman. Est-ce que c'est mieux de se verser des dividendes pour aller maximiser ses allocations familiales? C'est quoi la structure? Donc, on va vraiment, selon la personne, aller chercher la meilleure structure légale de l'entreprise pour que la personne ait la meilleure stratégie fiscale. Je pense que c'est ça aussi ma force, c'est d'amener ça parce que c'est pas vrai que tu as besoin de t'incorporer le jour 1. Tu peux être une entreprise individuelle jusqu'à temps que ta stratégie fiscale dise « go là ». Tu sais, là, c'est le temps de s'incorporer.
Puis, on viendrait de voir si, par exemple, ça fait quelques années qu'on a notre entreprise, puis là, on veut vraiment optimiser ces processus-là, puis on veut vraiment comme passer au prochain niveau de ce côté-là.
Oui, et aussi les hybrides. Je suis excellente avec ceux qui passent du corpo à projet entrepreneurial et ceux qui passent d'un type de projet entrepreneurial. Admettons, j'ai deux clientes. Il y en a une qui était professeure de yoga, l'autre était coiffeuse, et là, ils s'en vont dans un autre projet entrepreneurial. Fait que c'est toutes les hybrides, moi j'appelle. C'est comment tu fais cette transition-là le plus en douceur, en diminuant le plus les risques financiers et les risques de perdre ton temps. Fait que c'est vraiment les transitions.
Parce que
oui, comment on fait?
Dans le fond, tu sais, ici sur le podcast, je parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat à temps partiel parce que c'est vraiment ma situation. Fait que ça tombe super bien parce que j'ai l'impression que effectivement, puis là, je veux pas qu'on embarque sur une autre discussion, mais j'ai l'impression que c'est pas vrai que en tant qu'entrepreneur tu dois faire le même salaire que ce que tu faisais en tant qu'entreprise. Tu sais, il y a vraiment des nuances et des subtilités autour de ça. Puis des fois on voit ça un petit peu trop simpliste jusqu'à ce qu'on arrive dans le feu de l'action. Puis c'est comme oups,
oui,
pas pensé à ça.
C'est tellement vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut une planification stratégique au niveau financier et fiscal parce que vous êtes différent d'un salarié et encore plus pour les hybrides. Ceux qui sont encore salariés puis qui ont une entreprise, là, faut faire vraiment attention pour pas se faire manger par l'impôt.
Ouais.
Parce que là, le 51% d'impôt, il arrive vite.
All right. Bon, ben Geneviève, c'était absolument magnifique comme conversation. Merci vraiment beaucoup pour ton temps.
Ça fait plaisir.
Puis tout le monde, je vous encourage à aller écouter autant son podcast puis la retrouver sur Instagram. Les liens vont être dans les notes de l'épisode.
Merci tellement pour l'invitation.
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!